Hello and welcome to Voice on Record with me, Sean Williams. You're listening to Resonance 104.4 FM or resonancefm.com. Today's show is about the voice, the human voice in musique concrète and electronic music. These two forms of music really sort of started to really build up ahead of steam in the 50s. There are always exceptions. There are probably pieces from the 20s or even earlier that you could have think of as being electronic, certainly. But I'm not really going to start to split hairs about that. What I'm really looking at is from the 50s onwards, 50s and 60s, with a couple of more, slightly more contemporary examples. So we will be sort of verging on the boundary between music and sound, art and spoken word. So some of the things I'm going to play, I'll just play little snippets of, as usual, but there'll be another couple of things that'll be quite long. If you were listening last week, you would have heard Michael Horden reading The Crab That Played. Now, this week, I've got a really, really special thing, which is probably what a lot of people deem to be the first musique concrète release, which is La Crabe qui jouait avec la mer, which is obviously the same thing, but in French. And this is interesting because an awful lot of early electronic music and musique concrète really stemmed from radiophonics. So there was an awful lot of really interesting sound design happening in radio plays. And there's a very interesting crossover in the early 50s of these sort of territories. And this features kind of music and sound. You could call it sound effects, but it's music by Philippe Artois. So that's quite a long piece. Again, that's probably 20 minutes or so. I'll save that to the end. But in the meantime, there's a little bit of Trevor Wishart. There's some Luciano Berio. I can't think what else. I think some Robert Ashley. Alvin Lucier, possibly. Steve Reich, and anyway, various other bits. But to get underway, I'm going to play you about a 6-minute introduction by the late, great Professor Stanley Unwin.
Sacrilege, for the sliding need load or sapphire through the groobers of a disky right to the middling. Oh, never, never, never. Oh, dear. You know, Hi-Defi is something, a creation of one of the several wonders of the great worm, for the pleasure of the discerning public, for their eardropers, to be deep in joy, where two through gather together and listening to the loudoscopers for some creation of joy, man-made special effectors, as one can demonstrate, and I'll touch upon that later, and the folly of it. Oh, yes. Now, let's take for a start where the microphobia picks up that which is a joy for your hi-fi impinge on the drums. Right. Now, we have that which first sound emanale and goes for lollipop-a-doo. Listen for the echoed. Here we have a voice, slightly removed and ricochet back from a flat surfeit surfaces. 60-doo beal decay or time. Fallop back through your own ear droves and to the brain bocker for an echo inspirale. You know, the joy of this inspirale as it talks back onto your ear does show a very fine ephemeral result, almost magical in its Aladdin caber or any special type of reflex which sound can be used. Never confuse this with the delayed which sound which follows through to give you a different oral effect. Here, talk. One through Fido. There's no echo in this, but a delayed time where the words follow on to the foot leppers of what's early, say, and coasty creepy up on you with a deep folly joy load. That shows how you can get that words which creepy up on you like a shadow in the early mortgage, or, shall we say, a ghost in the deep of the night. The third method, and not to be misconstrued or confused with the ordinary echo or delayed, is that which comes back, not like a ricochet, but addimost up to an invertebrale. And so as the words come back, do an I tell you, it's not a pleasant experience where one can disappear in ever decrease which the circload of its own fundamould, I can tell you. Now, this brings to mind the very fine sounds which can be co-relayed to gab together and artificial mode for giving you the of the horse's hoopers. Now, listen to this deep jawl of the philolop. Yes. Now, you might have imagined a through to one or bar one, the Epstein corpse, where they're going round Tatnam Corby, where the bookies holding up his hand, clabbage, and signal-fied to give you the very fine sounds of a real horsips. But believe me, this was a disembodied electronic horsips for hitting the high-defido effect. Oh, yes. What joys one can have also from the little fountain doing its trittly how. Oh, philolope down, there's a deep joy in this, which scintillates of crystal clear, much as might have been emanailed by a piece of music. Now, there is such a thing as a joyful hi-defi of silence. Just listen to this. The full enjoyment, a full encompassment, the whole spectrode of sound manifest in a silence such as that, covering from through D-beal up through the whole spectrode of ambient noisings, so that if your own ears have a tick in them, do remove the waxy and stuff in a match in style. There is also the scratching of an insect onto a membrane, and this, when magnified up, is the oral equivalent of that which is under the microscope through thousand load or times. So do try, if you can, not to get involved in this any time you're out on a picnic and have a bee snatching on your own sort of nostrum or anything like that. Otherwise, they leave their sting in, which, if I'm pass on this time, is equivalent of a bee sting to the finest need load for scratching it into the image of a Buckman mile, which, as you know, is ever decreasing for the spiral of the flat surface feet surfaces of a disc itself. The full soul of expression in hi-fi, we must demonstrate the embryo sounds of the first recorm. And for the first acousti of the gathering of the orchestrale, conductor baton raisy, all ready for the drop in a 1-2 through folly in the foy, and he starts the orchestra grove. Now, this is the early cylindrical, where they even fumble to get in on the cylinder to make his first recorm. Listen to this very, sorry, embryo joy for a middle frequency sobers, but yet understood as had to be done in those days. And then the great trend, the progress in the 50-year loaders, which half turn of the century up to the early Thurpers, 40 through, 50 Fido, and now in the 60 Woe. Here we have the great full-range manifest ale of the Chai Cobber, and that for a wonderful as the, you can just imagine, you can see the passing out of the balaclavs there, Treadley in the snowball, and all the yetis up in the hillocks away there, and as the great cannons drawn forth, so the wars of the Tostings farewell of joy, and the great nations gathering most in the great finale crescendo. But never a sacrilege, if you don't mind.
Oh, how are your eardrobers after that? That was Stanley Unwin from the classic album Rotated Discus from 1961. Now, obviously, there's an awful lot more serious music that's come from this sort of tradition, but the date's really interesting because it's very, very early, and it's using exactly the same sort of effects, the delay, the tape delay and the echo and reverb and these sort of things that everybody was using in the more sort of classical electronic electroacoustic music and music concrete fields. This piece now is actually I guess it's a piece of music, really. But we'll get away with it. This is called U47 by Jean Baronet and François Dufresne from 1960, so just a year before Unwin's rotated discus. And this is just using the voice. There we go. So, technically a piece of music, but all using the human voice, so I think we can get away with playing it. And you can see that's a sort of a precedent for artists like Björk, who did the Medulla. Her album Medulla was all pretty much done using the human voice. And then some years before that, in between the two, you had Meredith Monk doing the similar kind of thing. So there's a precedent, and obviously it's not the first piece of music ever to just rely on the human voice. But this is early stuff, and this is an incredible amount of hours of tape editing, measuring and re-recording and splicing, and it's just an astonishing piece of work. Now, that's not the only way that the human voice is used. I'm going to try and have another few examples, but there's a piece by Henry Cowell called The Banshee, and I think it's Henry Cowell speaking at the very beginning. I'll just play you that, and then it's a sort of an inside the piano job. I'll play you a little bit of the introduction to it. But I think really you can actually hear his voice reverberating in the piano string. So there again, there's another method of reverberation rather than using tape or lots of tape heads or whatever techniques. Anyway, I'll play you a little snippet of The Banshee by Henry Cowell.
The Banshee.
So if this were a music programme, I would love to play you all of that and all of the pieces, but we'd be here all night and all the next day, and probably most of the way into next week and past Christmas. So, unfortunately, I'm trying to stick now just to the human voice. So the next excerpt is from something which is, when is it, probably mid-50s now. I think we're looking at, Channel Light, again, 1961, so just the same year as the Stanley Unwin. This is, I'm going to play you a little piece of Visage by Luciano Berio. Now, this features the voice of Kathy Berberian, who was fantastically prolific in working with really extended vocal technique. I'll read the sleeve notes. Kathy Berberian, whose stunning vocal artistry defies classification, was born in the United States of Armenian parents. She completed her vocal studies in Milan with Georgina Del Vigo. Since 1953, she has appeared in concerts, particularly of avant-garde music, both in Europe and in the United States. So this is from a 1967 record of electronic music, which also has a killer version of John Cage's Fontana mix, and one of my favourite pieces of electronic music, which is called Agony by Ilhan Mimaroglu. So I think actually you pronounce it Mimaroglu, but anybody Turkish, please feel free to email and correct me on email address is voiceonrecord@gmail.com. So I'll give you a little snippet of Visage by Luciano Berio.
Il mattino ora che venite stava a armitare. E stare Finita, sirukut, tasht, tustarama, veredemada, verata, star, aftara, vedira, voda. Ei, amore, cartisto dur, ella me misha dada, usada, vusti mira, pasta minata, usta, perla, cartisto dada. E mera cara, satar? Ah? Ti para, gira to dasi? Vieni, mor. Ai, si, un Und ich kann nicht da, ich sehe die
So there is a great example of the human voice with extended technique being used in conjunction with electronic sounds. And I suppose early 60s is still when the two schools of musique concrète and électronische musique were very, very separated. Very, very different sort of approaches. And there was a bit of a schism, one being, you know, mostly the French school and the German school based in Cologne. Even in the 50s, Stockhausen's piece Gesang der Jünglinge, which I'm not going to play you, it's fairly common, and you can find it yourselves. I'd love to do a whole show dedicated to that kind of thing, but not this is not the place. But that was used an awful lot of electronic sound and tape manipulation of recorded voice. So really after that, there was very little grounds for these very different sorts of arguments and approaches. One's better than the other. And I suppose in the late 60s, the two schools sort of merged, and then you get this first use of the word electroacoustic or electroacoustic music. And but we're not going to get too bogged down in all that sort of thing. So now I want to play a short bit of a Alvin Lucier track called North American Time Capsule, which is for voices and Sylvania Electronic Systems vocoder. So this is a sort of an early bespoke vocoding machine, which is used here to quite dramatic effect to really electronify the voice, if you like. So this is more extreme. We're getting into the realms of voice transformation. So again, I'll play a little bit and then we'll move on. I'm going to go to the hospital. It's very hard to talk about transformation of voices, electronic transformation, without really talking about Trevor Wishart, whose work spans several decades, and he's one of Britain's most prolific electronic electroacoustic composers. Now, a lot of his material deals with voice and language specifically. A recent piece, Globalalia, deals with, I think, 22 different languages, and he collected all sorts of recordings from around the world of these different languages and then chopped everything up into over 8,000 separate syllables and composed the piece from there using all kinds of transformation techniques. Now, a lot of his other work, sort of famously Red Bird, deals with transforming the voice, human voice, into something else. In that case, it was bird song in one particular instance, and vice versa. And I want to play you a couple of extracts from a piece of his from 1998 called Two Women. And the two women in question are Margaret Thatcher and Princess Diana. And this is just an example of some of the things. I'm going to play short excerpts again, but I would love to play the whole thing, but maybe we can arrange a show in the future where I can get away with playing more music. So this, you should recognise the voice being transformed from the original material of something else. So in that example, you've got the transformation of the siren, a siren-type sound, leading straight into the voice of Margaret Thatcher. And obviously there are several layers of transformation going on, but it's an unmistakable voice. Another piece of Trevor's, which is, I think, from 1999, is American Triptych, which is a piece that uses for its source material three voices, the voice of Martin Luther King, voice of Neil Armstrong as it's encoded back through radio transmissions from the moon, and the voice of Elvis Presley. And what Trevor does is he really tries to take out the actual characteristics of the voice, the singing quality of Martin Luther King's voice and the sort of the jumpy danciness of Elvis's voice and the very band limited distorted quality of Armstrong's voice, and then he uses that to base the compositional ideas upon. We'll come back now to another part of Two Women, and this is obviously the other woman in the title, and hopefully you can hear some of this sort of character of the voice or of the person through the voice as used in the music.
But now I can't tolerate it. This is not
So that's a number of little excerpts, and I wish I could play the entire pieces, but it's not possible. However, for the next half of the show, I'm going to concentrate on playing one whole story, and this is a spoken word story. However, it's a very early radiophonic piece, and supposedly the first record release of Musique Concrète. It's from the mid-50s, and the music and sound design is by... It's not called sound design, it's called Musique Concrète on the disc, and it's by Philippe Artois. And this was a very, very early GRM, the Groupe Recherche Musicale, before it was even called that, which was led by Pierre Schaeffer and Pierre Henry in Paris. So, this is a French version of the Kipling story, The Crab That Played, which we played last week, which was read in English by Michael Horden. This time it's in French, so if you don't speak French, just pretend you've gone back 25 years and you've tuned into Radio Luxembourg or something like that, and enjoy the sounds, the noises, if you don't really get the language. And always, you could always just listen to the podcast of last week's show to pick up the story. But, you know, it's a children's story, so you may find, you may surprise yourself if you're not too confident with the French. Anyway, this is Le Crabe qui jouait avec la mer, and this is for Xavier Fasson and Antje Schur.
Passé l'île de Bintang, passé Malacca, passé Singapour, passé Selangor, se trouve une montagne merveilleuse, cachée par un nuage magique, d'où l'aîné des magiciens regarde vivre le monde. Or, avant que toute chose eût été créée, un homme et sa petite fille vivaient avec lui. L'éléphant, la vache, le castor, la tortue jouaient avec eux. Il n'y avait ni d'autres éléphants, ni d'autres vaches, ni d'autres castors ou tortues, ni d'autres fleuves que le fleuve Perak, le plus ancien de tous les fleuves, comme tu peux voir sur le dessin. Le crabe s'appelle Poama, et tous les animaux portent le titre de Raja, parce qu'aux Indes, où vécut longtemps Rudyard Kipling, cela veut dire « roi ». Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus grand. Il y a 5 continents et beaucoup d'animaux. Et bien sûr, tu les connais tous. Il y a aussi de vrais crabes qui vivent dans de vrais arbres. Et la mer porte vraiment toute seule les pirogues des pêcheurs de Malaisie et ils n'ont pas besoin de pagayer. Si un jour tu vois toute une plage très très grande et qui bouge toute seule, ne crains rien. Ce sont des milliers de petits crabes qui sont cachés sous le sable et le font remuer. C'est une histoire comme ça, et tout le reste n'est rien. Bien avant les anciens temps, ô ma mieux aimée, fut le temps des tout commencements. Et c'est alors que l'aîné des magiciens préparait toutes choses. La terre, puis la mer furent créées. Les plantes, les fleurs, les arbres de la forêt et tous les animaux. Et quand le magicien les eut créés, il leur dit qu'ils pouvaient sortir et jouer. L'éléphant sur la montagne. Le castor dans la rivière. La vache dans la prairie. Et la tortue.
Et comment est-ce une tortue ?
prit ainsi toutes les bêtes, tous les oiseaux et tous les poissons, et leur dit à quoi il fallait jouer. Vers le soir, à l'heure où les gens et les choses se sentent inquiets et fatigués, l'homme s'en vint à la rencontre du magicien.
Quel est ce jeu, aîné des magiciens ?
Ô fils de l'homme, ceci est le jeu de toute création, et tu es trop sage pour ce jeu. Qu'il te suffise d'être obéi de tous les animaux.
Or, tandis qu'ils parlaient tous deux, Poama le crabe, dont c'était le tour de jouer, s'en alla, en marchant de côté, et entra dans la mer tout en disant
« Je jouerai mon jeu tout seul, dans les eaux profondes, et jamais je n'obéirai ni à l'homme, ni au magicien. »
Et personne ne le vit s'en aller.
« Si, moi. Moi, je l'ai vu. »
Ainsi, un long, très long temps passa, où tous vivaient en paix. Pourtant, le magicien qui les regardait vivre du haut de son nuage magique semblait inquiet. Aussi décida-t-il de se promener de par le monde pour voir comment les animaux jouaient. Au nord, il trouva éléphants, bêchant des défenses et tapant joyeusement des pieds dans la belle terre neuve et nette. Et il fut si content de le voir si bien jouer qu'il souffla sur les rochers les grosses mottes qu'éléphants avaient retournées.
Et ils devinrent les grands monts de l'Himalaya.
Et tu peux les trouver sur la carte, petite fille. Et il alla vers l'est et trouva la vache pâturant dans un pré. D'un seul tour de langue, elle balayait toute une forêt à la fois, l'avalait et se couchait pour ruminer ensuite. Le magicien fut si content qu'il souffla sur la plaine où elle avait mangé et la vallée où elle s'était couchée.
L'une devint le grand désert indien, l'autre le désert du Sahara.
Et tu les trouves aussi sur la carte, petite fille. À l'ouest, il trouva Castor, qui bâtissait une digue en travers des embouchures des larges rivières. La digue était si belle que le magicien souffla sur les arbres tombés et l'eau tranquille.
Ils devinrent les bois de la Floride. Et moi, je l'ai trouvé sur la carte.
Alors, il alla au sud et trouva Tortue, grattant des nageoires sur la grève. Le sable et les rochers sifflaient à travers les airs et tombaient très loin dans la mer. Et c'était si joli que le magicien laissa le sable et les rochers là où ils étaient tombés dans la mer.
Ils devinrent les belles îles de Bornéo, de Sumatra et de Java et le reste de l'archipel malais.
Peux-tu lui aussi le retrouver sur la carte ? Ainsi jouait le monde, Et le magicien retournait vers son nuage magique, tout content du jeu des animaux, de leur docilité et de l'aide qu'ils lui apportaient pour la création. Lorsqu'il rencontra l'homme sur les rives du fleuve Perak, le roi fleuve de tous les fleuves, et voyant sa mine boudeuse, lui demanda
« Eh bien, homme, tous les animaux t'obéissent-ils ? »
« Oui. »
« Toute la terre t'obéit-elle ? »
« Oui. »
« Toute la mer t'obéit-elle ? »
Une fois le jour et une fois la nuit, la mer monte le long du fleuve Perak et chasse l'eau douce qui déborde dans la forêt et ma maison est inondée. Une fois le jour et une fois la nuit, elle descend le fleuve et emporte toute l'eau derrière elle, de sorte qu'il ne reste que la vase et ma pirogue chavire. Est-ce là le jeu que tu lui as montré ?
C'est là un nouveau et très mauvais jeu.
Regarde ! La mer arrive par l'embouchure du fleuve Perak, poussant l'eau devant elle. Oh ! Elle va inonder toutes les forêts profondes et noyer la maison de l'homme.
Ceci ne va pas. Mets ta pirogue à l'eau. Nous allons découvrir qui joue avec la mer. Viens avec nous, petite fille, et prends ces ciseaux d'or.
L'homme prit son poignard courbe à lame torse qui ressemble à une flamme, et ils partirent sur le fleuve Perak. Alors la mer se mit à courir à reculons, et la pirogue fut entraînée hors des bouches du fleuve Perak, passé Selangor, passé Malacca, passé Singapour, toujours plus loin, jusqu'à l'île de Bintang, comme si on l'avait tiré avec une ficelle. Alors l'aîné des magiciens s'écria
« Ô bêtes, oiseaux et poissons, vous que j'ai pris dans mes mains au tout commencement, lequel de vous joue avec la mer ?»
Quand la lune se leva, large et pleine sur les eaux, le magicien dit au petit vieux bossu qui est assis dans la lune et file une ligne avec laquelle il compte un jour pêcher la mer.
Ô pêcheur de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer ?
Or, il y a aussi un rat dans la lune qui ronge la ligne du vieux pêcheur à mesure qu'il la file. Et le magicien lui demanda
« Ô rat de la lune, est-ce toi qui joues avec la mer ?»
Leur jeu, une bête s'en est allée se cacher dans la mer, sans attendre vos ordres.
Grande est la sagesse des petits enfants qui savent regarder et se taire. À quoi cette bête ressemblait-elle ?
Elle était ronde et elle était plate. Ses yeux poussaient au bout de tiges et elle marchait de côté, et puis elle portait une forte armure sur son dos.
Grande est la sagesse des petits enfants qui disent la vérité. Allons à Pusat-Tazek. Maintenant, je sais qui joue avec la mer.
Point n'était besoin de pagayer car l'eau les emmena passer toutes les îles jusqu'au lieu nommé Pusat-Tazek, c'est-à-dire le cœur de la mer, par où l'on descend au cœur du monde. Et dans ce cœur pousse l'arbre merveilleux qui porte les deux noix magiques. Alors le magicien plongea son bras jusqu'à l'épaule dans l'eau profonde et, sous les racines de l'arbre merveilleux, il toucha le large dos de Pohama, le crabe. Et Pohama s'enfonça comme on le touchait et la mer monta comme l'eau monte dans une cuvette quand on y plonge la main.
Oh.
Well, I hope your French is holding up. While I change over from side one to side two, I will just explain. We are listening to Le Crabe qui jouait avec la mer, and hopefully you're enjoying Philippe Artaud's music and soundtrack, even if you can't quite get the French. Hopefully you've got understanding of the whole thing. Anyway, I'm going to play the rest of the whole story, and I hope you enjoy it. And then there'll be a little nugget of something rather special for any language at the very end of the show. Okay.
Ah, je sais à présent qui joue avec la mer. Que fais-tu, Poama?
Une fois le jour et une fois la nuit, je sors chercher ma nourriture. Une fois le jour et une fois la nuit, je m'en retourne. Laissez-moi tranquille.
Écoute, Poama. Quand tu sors de ta caverne, les eaux de la mer se déversent dans Pusapta sec. Et toutes les grèves de toutes les îles restent nues, et tous les petits poissons meurent. Et Raja Mozankaban, le roi des éléphants, ses jambes se crottent. Quand tu retournes et te réinstalles dans Pusapta sec, les eaux de la mer montent, et la moitié des petites îles sont noyées. La maison de l'homme est inondée, et Raja Abdullah, le roi des crocodiles, sa bouche est pleine d'eau salée.
Je ne le savais pas tant d'importance. Désormais, je sortirai 7 fois le jour, et l'eau ne se reposera jamais.
Je ne peux te faire jouer le jeu auquel tu étais destiné, Poama, parce que tu m'échappas dans les tout commencements. Mais si tu n'as pas peur, monte et nous pourrons parler.
Je n'ai pas peur.
Et il s'éleva vers le haut de la mer dans le clair de lune. Il n'y avait personne au monde de si grand que Poama, car il était le roi crabe de tous les crabes. Et il était plus haut que la fumée de 3 volcans. En montant à travers les branches de l'arbre merveilleux, il arracha un des grands fruits jumeaux, la noix magique à double amande qui rajeunit les hommes. Et la toute petite fille la vit qui dansait dans l'eau le long de la pirogue. Elle la repêcha et se mit à en évider la coquille avec la pointe de ses ciseaux d'or. Alors le magicien dit:
Maintenant, Poama, roi crabe de tous les crabes, fais un sortilège, et nous jugerons de ton pouvoir.
Poama roula les yeux, remua les pattes, mais ne put qu'agiter la mer. Et le magicien ne put s'empêcher de rire en disant:
Tu n'es pas si important après tout, Poama. Laisse-moi essayer à mon tour.
Et il fit un sortilège de la main gauche, rien que du petit doigt de sa main gauche. Et crois-tu mieux aimer? La double carapace bleu-verte et noire de Poama tomba comme l'écorce d'une noix de coco, et Poama se retrouva tout nu et tout mou comme les petits crabes que l'on trouve parfois sur la grève. Alors la petite fille dit à son tour:
Ô roi des crabes, es-tu vraiment si important? Faut-il demander à l'homme que voilà de te découper avec son couteau? Faut-il envoyer chercher le roi des éléphants pour te trouer de ses défenses? Ou appellerai-je le roi des crocodiles pour te mordre?
J'ai honte. Rends-moi ma coque dure et laisse-moi rentrer à Pusapta sec, et je n'en sortirai qu'une fois le jour et une fois la nuit pour chercher ma nourriture.
Non, je ne te rendrai pas ta carapace, car tu deviendrais plus orgueilleux et plus fort. Et peut-être oublierais-tu ta promesse de ne plus jouer avec la mer.
Que ferais-je? Tout mou comme je suis, les requins et les chiens de mer me mangeront. Je ne pourrai jamais sortir pour chercher ma nourriture, et alors je mourrai.
Écoute, Poama. Je veux bien faire quelque chose pour toi, bien que tu m'aies échappé dans les tout commencements. Je puis faire de chaque pierre, de chaque trou et de chaque touffe de goémon un abri pour toi et tes fils. Choisis ce que tu veux.
Cela est bon. Mais si l'homme n'avait pas occupé ton attention au tout commencement, je ne me serais pas sauvé sans attendre tes ordres, et rien ne me serait arrivé. Que fera-t-il pour moi, lui, Si tu veux, je ferai un sortilège de telle sorte que l'eau profonde et la terre sèche soient pareillement ton domaine, à toi et à tes fils, de manière que tu puisses te cacher à la fois sur la terre et dans la mer. Évidemment. Évidemment, mais si la petite fille qui m'a vu fuir dans les tout commencements avait alors parlé, le magicien m'aurait appelé et rien ne me serait arrivé. Que fera-t-elle pour moi, elle?
Si tu veux, je ferai un sortilège et je te donnerai cette paire de ciseaux qui sont très pointus et très solides, de manière que toi et tes fils puissent manger des noix tout le long du jour. À l'aide de ces ciseaux, vous pourrez creuser un puits à tas sec ou... si la terre est trop dure, vous pourrez grimper dans les arbres.
Non. Je ne choisis pas encore. Car tout mou comme je suis, mes dents ne me serviraient de rien. Rends-moi ma coque dure, aînée des magiciens, et alors je t'obéirai.
Je veux bien te la rendre, Poama, pendant 11 mois de l'année. Mais le 12e mois, je te la retirerai. Afin que vous n'oubliez jamais, toi et tes fils, que je sais faire des sortilèges. Car si tu peux courir à la fois sur la terre et sous l'eau, tu deviendras trop hardi. Si tu peux grimper aux arbres, casser des noix et creuser des trous avec tes ciseaux, tu deviendras trop gourmand.
Alors l'aîné des magiciens fit un sortilège de la main droite, de tous les 5 doigts de la main droite. Et voici que Poama devint de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un petit crabe vert qui nageait le long de la pirogue en criant d'une toute petite voix
« Donnez-moi mes ciseaux !»
La toute petite fille le cueillit et le mit dans la paume de sa petite main brune. Elle l'assit au fond de la pirogue et lui donna ses ciseaux qu'il brandit dans ses petits bras.
« Je peux manger des noix, je peux casser des coques, je peux creuser des trous. » Je peux grimper aux arbres, je peux respirer dans l'air sec et me faire un puce à tas sec sous chaque pierre. Je ne me savais pas si important.
Poama se laissa tomber de la pirogue dans l'eau. Et il était si petit qu'il aurait pu se cacher à l'ombre d'une feuille morte.
Cela fut-il bien fait?
Oui, mais maintenant il faut retourner à Perrac. Et c'est très long à la pagaie. Si nous avions attendu que Poama fût sorti et rentré à Poussatasek, l'eau nous aurait porté là toute seule.
Ô pêcheur de la lune, voici un homme qui est trop paresseux pour retourner à la pagaie chez lui. Ramène sa pirogue avec ta ligne.
Puisque je dois être paresseux, que la mer travaille pour moi 2 fois le jour, à jamais. Cela m'épargnera de ramer.
Le rat de la lune cessa de ronger la ligne et le pêcheur la laissa filer jusqu'à toucher la mer. Alors il tira toute la mer profonde. Passé l'île de Bintang, passé Singapour, passé Malacca, passé Selangor, jusqu'à ce que la pirogue glissa de nouveau dans l'embouchure du fleuve Perrac. Et le magicien dit au pêcheur de la lune
« Veille bien à tirer la mer 2 fois le jour et 2 fois la nuit pour toujours, de manière que les pêcheurs de Malaisie n'aient point à pagayer. Mais fais attention à ne pas la tirer trop fort, ou je ferai un sort contre toi comme je l'ai fait avec Poama.
Depuis ce jour, la lune a toujours tiré la mer et fait ce que nous nommons les marées. Quelquefois, le pêcheur de la lune tire un peu trop fort et ce sont les marées de printemps. Quelquefois, il tire trop doucement et ce sont les mortes eaux. Mais presque toujours, il fait attention par crainte du magicien. Tu peux voir sur la plage comment tous les bébés crabes se font de petits poussata secs sous chaque pierre, chaque touffe de varech des sables. Vous pouvez les voir brandir leurs petites pinces et dans quelques parties du monde, ils habitent vraiment sur la terre sèche et grimpent dans les palmiers et mangent des noix de coco.
Une fois par an, tous les poamas doivent dépouiller leur coque dure, tout comme l'avait promis le magicien?
Oui, de sorte que ce n'est pas juste de tuer ou de poursuivre les bébés de poamas, rien que parce que le vieux Poama a été bêtement malpoli il y a très longtemps de cela. Oh, à propos, les bébés crabes détestent qu'on les extirpe de leurs petits poussata secs pour les rapporter à la maison dans de vieux pots à moutarde. C'est pourquoi ils pincent avec leurs ciseaux. Et c'est bien fait.